السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du samedi 14 Rajab 1431, ce qui concorde avec le 26 juin 2010, bi-idhnillah ta'ala, nous allons faire une série de questions-réponses, inshallah ta'ala. Car je n'ai pas envie de continuer les doros sur Riyad Salihin, car c'est bientôt le Ramadan. Et puisque le Ramadan est proche, bi-idhnillah ta'ala, on est obligé de consacrer le mois, c'est-à-dire le mois de Rajab et de Sha'ban qui va rentrer. On doit le consacrer à ce qui a rapport avec le Siyam. Ce qui a rapport avec le Siyam. Car vous savez, pour ceux qui ont l'habitude d'assister avec moi, que pendant le ramadan, il n'y a pas de cours. Pendant le ramadan, il n'y a pas de cours. Donc il reste seulement un mois et quelques. Donc on devra profiter, Inch'Allah Ta'ala, à partir du prochain DAS, pour faire des cours sur le Siyam. Ce sera un rappel pour les anciens et des choses nouvelles pour les débutants et les débutantes. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on ne va pas dire un mois, c'est beaucoup, car on fait seulement deux cours par semaine, ce qui fait huit cours. Alors que les doulos qu'il y a sur le ramadan sont très nombreux. Bi-idhnillah ta'ala. Quant au ramadan, on va faire comme l'année passée, comme toutes les années passées, on va faire seulement pendant les veillées, quand on se rencontre, on va faire des questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, ou là on va faire aussi des... Comment ça s'appelle, hein, donc, on dit comment ça s'appelle? C'est pas des examens, j'ai oublié comment ça s'appelle. Des concours, voilà, Jazakallah Khair. Des concours. Naam. Tayyib. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, avant que on commence les questions-réponses, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, je vais vous poser moi quelques questions, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, c'est à vous, Inch'Allah Ta'ala, de poser des questions. Voyez. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Voyez, la première question. Est-ce que on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit de lui qu'il a la vue, ou bien on dit de lui qu'il a les yeux, ou bien on dit de lui qu'il a la vue et les yeux? Je répète, est-ce qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a la vue, ou bien qu'il a les yeux, ou bien qu'il a la vue et les yeux? Avant cela, Inch'Allah ta'ala, je demande à l'admin de faire descendre, Inch'Allah ta'ala, toutes les mains. Comme ça, celui qui aura la réponse, on saura qui c'est. C'est celui qui lèvera sa main. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je répète la première question. Est-ce qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, il a la vue et les yeux. Quelle est la réponse, la vraie, de Al-Sunnah ou Jama'a? J'attends, Inch'Allah ta'ala, votre réponse. Celui qui a la réponse, il l'écrit, il lève la main. On lui enlève le rouge, on affiche, Inch'Allah Ta'ala, sa réponse. Tayyib, on va attendre, Inch'Allah, pour voir combien de mains. Tayyib, Abou Anas, Salafiya Mali. C'est C'est-à-dire, il y a deux personnes qui peuvent répondre parmi 89 personnes. Ce serait trop mauvais. Oussama, Ikhlas, Khadija, Tayyib. Tayyib, Tayyib. Maintenant, Alhamdulillah. Donc, on va écouter, Inch'Allah Ta'ala, on va lire un par un. Tayyib, si vous permettez, vous enlevez Abou Anas. Vous lui enlevez le rouge. Ensuite, chaque personne, Inch'Allah Ta'ala, quand elle répond, la vue et deux yeux, cher. Naam. Tayyib, maintenant, Inch'Allah Ta'ala, chaque personne qui répond, on lui donne le red. Ensuite, on l'enlève au prochain. Tafi Yamadi, Tafadali. سلفي يا مالي تفضلي طيب pour ne pas perdre de temps Oussama il a la vue et les yeux طيب la vue et les yeux donc c'est la même réponse la vue et les yeux c'est la même réponse Oussama et ça تفضلي la vue et les yeux طيب Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je demande aux admins. Raidez tout le monde, vous allez voir. Raidez tout le monde. Raidez tout le monde. L'admin, raidez tout le monde, l'admin. Tout le monde est raidé. Moi je vois les mains levées. Je voulais dire faites baisser les mains. Faites baisser les mains. C'est ce que je voulais dire. Faites baisser les mains. Tayyib. Maintenant, celui qui a une autre réponse qui n'est pas la vue et les yeux, lève la main. S'il y a une personne qui a une autre réponse à part la vue et les yeux, lève la main. S'il y a une personne qui dit que on ne doit pas dire que Allah Ta'ala a la vue et les yeux. On dit là seulement la vue, ou bien seulement les yeux, ou bien il n'en a pas les deux. S'il y a quelqu'un, il lève la main. Personne n'a levé la main. Tayyib. Il y a Ahlam Ahmed. Enlevez-lui le raid, Inch'Allah. أحلام طيب moi je pose la question maintenant à Ahlam elle dit il voit يعني il voit avec la vue moi je te pose une question voilà il a bien deux yeux donc tu as répondu comme les autres il n'y a pas une grande différence il n'y a pas une grande différence طيب donc on va passer à autre chose et avant cela, bien sûr, je vais dire ce que je dois dire. Al-Sunnah ou Jama'a disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la vue et qu'il a deux yeux. Et qu'il voit, comme dit Cheikh Ibn Rothaymin, avec les yeux. Comme ça a dit Cheikh Ibn Rothaymin, rahimahullah. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala voyait avec les yeux. Donc, il faut faire, il faut, yani, comment on dit, il faut être prudent et pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber dans le dogme des gens de la bida qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'yeux. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'yeux et qu'il a seulement quoi? Il a seulement la vue. C'est-à-dire il voit, il n'est pas aveugle, c'est tout. Mais ils disent, on ne peut pas dire de lui qu'il a deux yeux. Alors que, yani, les délits des yeux, bien sûr, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Il y a même un fichier, j'ai même un fichier spécialement sur les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on dit les savants, se basant sur le Coran et sur la Sunna, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, on va passer, Inch'Allah ta'ala, à la deuxième question. On va passer à la deuxième question. Tayyib, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. C'est élevé au-dessus du trône. L'élévation d'Allah subhanahu azza wa jal. Ce qu'on appelle en arabe, l'ulou. L'élévation. Est-ce que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est un attribut de l'essence ou bien un attribut de l'acte? Est-ce un attribut de l'essence ou bien un attribut de l'acte? طيب أيه، on commence par Abdul Hakim 19. تفضل. Les deux. Abdul Hakim 19 a dit les deux. Abu Anas. Abu Anas 67, tu es là? طيب. Souleymane 22. Abu Anas n'est pas là. Souleymane 22. C'est une sefa. Donc, Souleymane a dit que l'élévation est quoi? Est un attribut de l'essence. Un attribut de l'essence. Tayeb, Abu Ibrahim NDY, Hayakallah d'abord. J'espère que tu vas bien et que les amis vont bien. Atfadlab, donne-nous la réponse. De l'essence. C'est un attribut de l'essence, le houlou. Un attribut de l'essence. Tayeb, donc vous voyez, jusqu'à présent, il y a quoi? Il y a les deux et l'essence. Il y a les deux et l'essence. Tayeb, on va voir encore avec qui? Mulia. C'est quoi, Inch'Allah ta'ala, l'élévation? Attribut de l'essence. Attribut de l'essence. Tayeb, vous, Inch'Allah ta'ala, vous faites descendre les mains, Inch'Allah ta'ala. Vous faites descendre les mains. Je demande à Allah de faire descendre les mains. Naam. S'il y a quelqu'un qui dit que l'élévation est un attribut de l'acte, qui lève la main. S'il y a quelqu'un qui dit que l'élévation est un attribut de l'acte, qui lève la main. طيب. Ahlamou Mahmoud, تفضل. L'acte. Abou Anes 67. تفضل. De l'acte, Saha. Et enfin, Oussama Aïssa. Oussama Aïssa. نعم أبو أنس تفضل. دو لاكت. طيب. دونك je vous donne إن شاء الله تعالى la réponse, la vraie, qu'il faut, sur laquelle il faut mordre avec les molaires, إن شاء الله تعالى, pour ne pas vous tromper. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle le ulu, est quoi? Est un attribut de l'essence et n'est pas un attribut de l'acte et par conséquent n'est pas, yani ne fait pas partie des deux à la fois, mais seulement un attribut de l'essence. Ensuite, pour ne pas aller loin, car je vais vous poser d'autres questions, pour ne pas aller loin, il faut que je vous rappelle quelle est la règle pour qu'on sache si tel attribut est un attribut de l'acte ou bien il est un attribut de l'essence. Comment qu'on fait pour voir? On voit, est-ce que cet attribut dont on parle se détache d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ne se détache jamais de lui. S'il ne se détache jamais de lui, tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, on dit c'est un attribut de l'essence. Mais si c'est un attribut qui se détache et que Allah ta'ala le fait quand il veut, il se base sur la volonté. Si, par exemple, le rire. S'il veut, il rit. S'il veut, il ne rit pas. Il ne rit pas. Là, châtie. S'il veut, il châtie. S'il veut, il ne châtie pas. On dit de ça, un attribut de quoi? De l'acte. Mais si c'est quelque chose, un attribut, qui ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit un attribut de l'essence. Est-ce que l'élévation, est-ce que un jour Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas au-dessus de lui? Jamais. C'est lui toujours le plus élevé. Ça ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut de l'essence. Vous avez compris? Ça y est. Maintenant, je vais continuer en ce sens en vous citant un attribut. Vous allez me dire si c'est l'attribut de l'essence ou bien l'attribut de l'acte, Inch'Allah ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala parle. Est-ce un attribut de l'essence ou bien un attribut de l'acte? أمي سارة تفضلي. ليسونس. طيب أم سليمان فندو دو لاكت. أمي سارة remarquez avec moi, elle a corrigé. Elle a dit de l'acte, pas de l'essence. Voyez. Oum Souleymane 22. C'est fi'liya et datiya. Oum Souleymane 22 a dit que ça faisait partie des deux. Des deux. De l'essence et de l'acte. Voyez. Mouahidin. Mouahidin. De l'acte. Abdul Hakim 19. Fadl Abdul Hakim. Les deux. Tayyip. Les deux. Nam. Muslima 3. Essence et acte, ça veut dire les deux. Les deux. Nam. Abu Ibrahim. أبو إبراهيم تفضل. لي دو. أم خديجة. أم خديجة. أتريبيو دو لاكت. Regardez. Remarquez avec moi. D'abord on va نعم on va faire baisser les mains إن شاء الله تعالى pour que je pose la question. Remarquez avec moi, tous ceux qui ont répondu, ou bien ils ont dit, ça faisait partie des deux, ou bien de l'acte. Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que la parole est un attribut de l'essence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que la parole d'Allah Ta'ala est un attribut de l'essence? Ni de l'acte, ni des deux. Voilà. C'est la fille Marie, ta favori. De l'essence. Est-ce qu'il y a une autre personne qui, l'âme, qui y va, qui dit dans le même sens? La personne. Donc je vous donne la réponse, inshallah ta'ala. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut de l'essence et de l'acte. Les deux à la fois. Est un attribut de quoi? De l'essence. De l'essence et de l'acte. Ça fait partie des deux. Pourquoi? On va revenir à la règle de tout à l'heure. Pour dire d'un attribut qu'il fait partie de l'essence, ça veut dire qu'il ne se détache jamais de Allah subhanahu wa ta'ala, ne se sépare jamais de lui. Est-ce que d'après vous, la parole se sépare d'Allah ta'ala au point où il reste comme ça sans pouvoir parler s'il veut? C'est-à-dire qu'il n'a pas la parole, donc il est muet? C'est impossible. La parole ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme sa main ne se sépare jamais de lui. C'est comme ses yeux ne se séparent jamais de lui. En ce sens, de ce côté, la parole d'Allah est un attribut de l'essence. Mais, d'autre part, Allah ta'ala parle quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne parle pas. Il parle avec qui il veut, et s'il ne veut pas parler avec une autre personne, il ne parle pas. Et comme ça. Donc, de ce côté-là, la parole d'Allah Azza wa Jal est un attribut de l'acte. C'est pour ça que le vrai, c'est que quoi? C'est que la parole fait partie en même temps de l'essence et en même temps de l'acte. Naam. Une autre question sur ces fêtes, toujours, ces fêtes. Voyez, Al-Istiwa. Al-Istiwa. L'établissement d'Allah Azza wa Jal sur le trône. L'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône. On ne parle pas de l'élévation. On parle de l'établissement sur le trône. Est-ce un attribut de l'acte ou un attribut de l'essence? Muslima 3. Un attribut de l'acte. Abu Abdul Wahab. On va voir. Abu Abdul Wahab. Abu Abdul Wahab, qu'as-tu à dire sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône, au-dessus du trône? Tayyip, peut-être qu'il n'est pas avec nous. Oum Souleymane 22. صفة فعلية لاكت. نعم أم صفوان، أم صفوان لاكت. نور إسلام 77، نور إسلام 77. L'acte. طيب أم صفوان a dit attribut de l'essence. Attribut de l'essence. Donc vous avez remarqué que la plupart ont dit quoi? La plupart ont dit attribut de l'acte. La plupart ont dit attribut de l'acte et que Om Sofwan a dit attribut de l'essence. Maintenant on va voir inshallah ta'ala celui qui dit que l'élévation au-dessus du trône est un attribut de l'essence, lève la main. On va d'abord baisser les mains. Hein? S'il y a quelqu'un qui dit que l'élévation au-dessus du trône est un attribut de l'essence, il lève la main. Ça y est. Attendez, d'abord, on descend les mains. Ça y est. Abu Abd al-Hakim 19, tfadlal. Abu Abd al-Hakim 19, tfadlal. De l'essence. صح أم سمية 13، أم سمية 13 de l'essence. أم حذيفة، أم حذيفة de l'essence. Il est toujours au-dessus du trône. طيب elle a même donné le dalil. Elle a dit il est toujours au-dessus du trône. Abu Anis 67. De l'essence. Om Sana. Zineb 57. Je ne vois plus les réponses. Je ne sais pas si elles répondent, mais je ne vois pas les réponses. L'admin, vous voyez quelque chose? J'ai pas vu la réponse de Om Sana ni de Zineb 17. Zineb 57. Abu Riyad 31. Ça y est, peu l'essence. Je vais vous donner, inchallah ta'ala, la réponse. Regardez. L'élévation au-dessus du trône. L'istiwa à l'arche. L'istiwa n'a pas existé, yani, n'est pas quelque chose qui ne se sépare pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens que Allah ta'ala dit dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il s'est établi au-dessus du trône. Ensuite, il a fait quelque chose. Donc, cette chose n'était pas toujours avec lui. C'est quelque chose de nouveau. Il a fait quoi? Il a fait l'istiwa. Donc, en ce sens, c'est un attribut de l'acte, parce qu'il a fait. Auparavant, il a créé les cieux et la terre, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, istawa ala l'arche. Il a fait. Et s'il avait voulu, il n'aurait pas fait. Donc, ça dépend de sa volonté. Donc, c'est un attribut de l'acte. Mais, comme Salah al-Sheikh, hafidhahullah, a dit que, mais maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi, il est toujours établi au-dessus du trône, et alors c'est devenu un attribut de l'essence. Il a dit, c'est devenu un attribut de l'essence. C'était un attribut de l'acte, et après l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu un attribut de l'essence. Donc ceux qui ont dit, c'est un attribut de l'acte, ne se sont pas trompés. Ceux qui ont dit, c'est un attribut de l'essence, ne se sont pas trompés en ce sens que, ils ont vu quoi? Ils ont vu après l'établissement. Et ceux qui ont dit de l'acte ont vu avant l'établissement. Non. Tayyib, barakallahu fikoum. Je vais ajouter quelques questions dans la aqida, inshallah ta'ala. Non. Une seconde. On va sortir des noms et des attributs. On va sortir des noms et des attributs, inshallah ta'ala. Une seconde, je suis en train de penser à une question, Inch'Allah. Je suis en train de penser à une question. La fois passée, si j'avais dit, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Ceux qui ont assisté au cours passé, ou bien au cours qui était l'avant-dernier, pourront, Inch'Allah ta'ala, répondre à la question, à la prochaine question. Non. Voilà la question. Est-ce que quelqu'un qui était musulman et qui a fait le Hajj, ensuite, après avoir fait son Hajj, il a quoi? Il a apostasie. Et il est sorti de la religion et, par exemple, il est devenu chrétien ou l'ayadu billah. Ensuite, après être devenu chrétien, quelques mois après ou là, une année ou là, il est rentré de nouveau en islam. Est-ce que cette personne est redevable du Hajj et doit faire un nouveau Hajj, ou bien elle va se contenter du Hajj, naam, qu'elle avait fait lorsqu'elle était musulmane? Tayyib. On commence Allah Ta'ala par Aïcha 01. Tafadlali. Vous dites seulement il refait pas. Vous dites comme ça. Il refait pas. Aïcha 01, il refait ou là il refait pas? Il refait pas. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, il refait le Hajj ou là il refait pas? Il refait pas, mais je n'ai pas assisté, cher. Tayyib, Tayyib, puisque tu dis qu'il le. Khalid, je vais revenir vers toi, Inch'Allah, je vais revenir. Alhamdulillah 5, tfadlal. Donc Abu Ibrahim a donné une réponse sans avoir assisté au cours. Alhamdulillah 5, c'est quoi ta réponse? Il n'est pas là peut-être. Ikhlas, Inch'Allah. Il ne refait pas. Oum Islam 1. Non, il ne refait pas. Ah, tayyib, c'était Alhamdoulilah, ensuite Ikhlas. D'accord. Oum Islam 1, Inch'Allah. Il ne refait pas. Donc, il y a 5 ou 6 personnes qui, jusqu'à présent, ont dit il ne refait pas. Inch'Allah, l'admin, vous voulez baisser les mains. On va voir ceux qui disent il refait. Tayyib. Ceux qui disent il refait, lève la main. Oum Amina Sara, tafadlali. Oum Amina Sara, tafadlali. L'admin, enlève-lui le raid. Il refait. Naam. Abu Safiya, tafadlali. Il refait. Non. Abu Abdel Wahab. Abu Abdel Wahab, tu es là? Non. Alors, il refait ou il ne refait pas? Il refait. Jazakumullahu khairan. Maintenant, il y a une question. Une question. Abu Ibrahim MDY. Lève la main, Inch'Allah. Abu Ibrahim MDY. Lève la main. Alhamdulillah. L'admin, enlève-lui le raid. Enlève-lui le raid. Abu Ibrahim Indigre, tu avais dit que tu n'as pas assisté au cours et que d'après toi, il refait pas le Hajj. Il refait pas. Tayyib, quel est ton délit? Quel est ton délit qu'il refait pas? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah ta'ala dit, et il a été révélé à toi, Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu fais de l'association, tes œuvres seront nulles. Alors toi, tu dis que non, il ne refait pas le Hajj. Quel est ton dalil? Si tu peux écrire, écris-nous le dalil. Sinon, inshallah ta'ala, tu peux parler avec le micro, tafadhal.
السلام عليكم شيخ عمر. Est-ce que vous m'entendez? Qui se basait, inchallah, sur un dalil, الذين تابوا. Allahu a'lam, je me rappelle plus très bien du dalil. Cheikh, je vous redonne le micro, inchallah.
طيب أم عاد enlevez lui le raid. Elle a dit il refait pas. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. Si vous faites la tauba, vous avez vos capitaux. En parlant de celui qui fait la tauba, de l'usure. طيب. معلش. Je voudrais poser une question à la personne. Je voudrais poser une question à ceux et à celles qui disent il refait. À ceux et à celles qui disent il refait. S'il y a quelqu'un qui a dit il refait, qu'il lève la main pour nous donner c'est quoi son délai, pourquoi il refait. Mouahidine, fadli. Sarah, prépare aussi ta réponse. Le nul, le shirk annule les actes. C'est le verset. Si tu fais le shirk, tes œuvres seront nulles. Comme ça, là, l'apostasie annule les actes. Exactement comme a dit yani les autres. Salafia du Mali, as-tu quelque chose? As-tu quelque chose de nouveau? Tfadli. La même preuve, d'accord. Je vais vous donner, inshallah ta'ala, maintenant la vraie réponse. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. La vraie réponse. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. La vraie réponse, c'est que si quelqu'un a fait le hajj en étant musulman, ensuite, ou l'ayyadu billah, il apostasie, ensuite, il revient encore une fois vers l'islam, il n'est pas obligé de refaire le hajj. Et son premier hajj compte pour lui. Si quelqu'un va dire, mais il y a un verset que je viens de citer moi, qui dit que il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais de l'associationnisme, tes œuvres seront nulles. On va dire d'accord. C'est vrai. Celui qui fait l'associationnisme, ses œuvres seront nulles. Mais à condition, Allah Ta'ala a mis une condition, laquelle il a dit, s'il meurt, c'est-à-dire que s'il reste vivant, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il meure seulement en étant associateur. Le délit, c'est quoi? C'est l'autre verset, non? De sorte, Baqara, lorsque Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ » Et celui qui apostasie de vous, de sa religion. Fayamut meurt ou est kafir en étant kafir, faoulaika habitat amalum. Ce sont ceux-là qui leurs œuvres seront annulées, puis dunya ou l'akhira, dans cette vie et l'au-delà, et oulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Et ce sont ceux-là qui vont périr éternellement en enfer. Donc si la personne, comme je viens de dire, ne meurt pas, alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, ça nous pousse à quoi? À reconnaître yani, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlullah ta'ala. Regardez, vous faites la plus grande, disons, le plus grand péché du monde, le shirk. Et si tu ne meurs pas, subhanallah, mais tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te compte yani, les choses que tu avais faites yani, en tant que musulman, si bien sûr elles remplissaient les conditions. Et elle remplissait bien sûr les conditions. Naam. Maintenant, inshallah ta'ala, on va passer à vos questions. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadl, inshallah ta'ala, si vous voulez vous me poser les cinq premières questions, barakallahu fikoum.
Vous voulez que je lise les questions, Inch'Allah, ou alors on attend votre revenu, Inch'Allah? D'accord, excusez-moi. Donc, la question de converti salafi. C'est un frère, Inch'Allah. Il dit, salam alaikum, je suis un musulman issu d'une famille chrétienne. Je souhaite acheter un appartement, il veut dire par là, acheter un appartement dans un pays musulman. Et un parent chrétien souhaite lui donner de l'argent pour cet achat. L'argent qu'ils vont lui donner, c'est de l'argent bloqué sur un compte d'épargne. Et donc, il provient du riba. Il demande quelle est la part d'argent que je peux accepter. Est-ce que je peux accepter la totalité, cher? Deuxième question de Maïsara. Salam alaikum, cher. J'espère que vous allez bien. Mon mari souhaite vous envoyer un email. Est-ce que je peux avoir votre adresse mail? Troisième question, Cheikh, rapidement. Est-ce que toute âme musulmane aura le châtiment de la tombe? C'est la question de Aubergine. Barakallahu fikoum, Cheikh. Très bien, bien sûr.
Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est tombé quoi? C'est tombé juste avec le Adhan. Tombé juste avec le Adhan. J'ai noté les trois questions, Inch'Allah Ta'ala. Je répondrai, Inch'Allah Ta'ala, dès que je reviendrai, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, pour la première question, pour le musulman d'origine chrétienne, qui avait dit que s'il pouvait prendre de l'argent de ses parents et que ses parents faisaient de l'usure, etc. Si vous vous rappelez bien, je l'ai dit dans plusieurs cours que l'argent, ou que le haram se divisait en deux. Le haram en lui-même et le haram qui se fait par, yani que les gens font. On avait dit que la différence, c'est que c'était le premier. On ne pouvait pas prendre son argent. Et le deuxième qu'on pouvait prendre, on avait parlé comme l'argent des intérêts. L'argent des intérêts, c'est celui qui a fait l'intérêt avec cet argent qui aura les péchés. Pas celui qui prend ou là, à qui on donne, par exemple, ses intérêts. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dit dans une de ses fatwas que j'ai lues, que même si quelqu'un donne l'argent de l'intérêt ou un kafir te donne de l'argent pour construire une mosquée, tu les prends. Même si c'est pour construire une mosquée. Tu ne vas pas dire qu'il y a un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala tayyib et il n'accepte que le tayyib. Comment on dit en français tayyib? Allah ta'ala tayyib et il n'accepte que le tayyib. Peut-être quelqu'un va se baser sur ce hadith. Licite, non. On ne peut pas dire Allah est licite. Si quelqu'un va bon, Allah est bon, il accepte ce qui est bon. Naam, barakallahu fik. Donc, on ne va pas dire que il y a un hadith qui dit Allah est bon, il accepte que ce qui est bon, donc on ne construit pas la mosquée avec. Car qu'est-ce qu'on va répondre? On va répondre que nous, on n'a pas dit que Allah Ta'ala a accepté cet argent du kafir en construisant sa mosquée. On n'a pas dit qu'il l'a accepté, qu'il va donner des hasanat. Mais on a dit que nous, on a profité, on a gagné une mosquée. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Nous, alhamdoulilah, on a gagné une mosquée. Maintenant, si Allah Ta'ala a...
Ces deux hadiths. Celui où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé le sahabi à utiliser un nez en or et celui où il... sallallahu alayhi wa sallam, interdit à la jeune femme d'utiliser des faux cheveux malgré son défaut. Jazakumullahu khairan. Donc, question suivante. Salamu alaykum, cher. Lorsqu'on lève les mains pour demander à Allah, il faut lever les mains en étant assis ou debout. C'est quoi le mieux, assis ou debout, quand on lève les mains? Barakallahu fikoum. Et dernière question, salam alaikum. Un frère demande s'il peut donner la cotisation à la mosquée, sachant que cette cotisation, en fait, c'est une cotisation annuelle qu'il faut donner à la mosquée, sachant que cette cotisation va permettre certainement de payer le salaire de l'imam. Et cet imam n'est pas du minhaj. Il est contre la da'wa salafia. Est-ce qu'il doit donner cet argent avec la niya que ça permettra de payer les factures d'électricité, d'eau, etc. ou doit-il s'abstenir de cette cotisation? Barakallahu fikoum. Tfadda cheikh.
Afoun, barak Allah fik. Je n'ai pas compris, yani cotisation. Qu'est-ce que ça veut dire cotisation? Ça veut dire que yani, il va lui donner une part de son argent. Moula, ça provient de quelque chose qui s'appelle cotisation. Ça, je n'ai pas compris. Et la troisième question, si tu peux la répéter, que veut dire la personne yani, quand elle a parlé du nez en or et des cheveux? Je n'ai pas bien compris. Fadal.
Non, cher. Donc, non, pour la cotisation, en fait, c'est un genre de. C'est comme un abonnement, je ne sais pas comment expliquer exactement. En fait, tous les ans, on donne par exemple 150 euros. 150 euros à la mosquée, et cet argent, après, va permettre de payer, par exemple, le loyer de la mosquée, l'électricité, l'eau, etc. Mais cet argent va, par la même occasion, permettre de payer le salaire de l'imam. C'est-à-dire, ils prennent des parties, ils payent l'imam avec. Et cet imam est contre la da'wa salafia. Ah, donc le frère demande s'il doit payer ou doit s'abstenir. Et donc pour la troisième question, moi personnellement je ne l'ai pas compris, cher. Donc je vous la relis, inshallah. Ça demande la différence entre ces deux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé le sahabi à utiliser un nez en or et celui où il sallallahu alayhi wa sallam interdit à la jeune femme d'utiliser des faux cheveux malgré son défaut. J'ai pas très bien saisi. Attendez, cher. Donc elle me donne un complément, Inch'Allah. Ah, Naam, c'est bon, cher. Naam, donc elle dit en fait. Donc vous avez compris, Tfadal, cher.
Malik, dis-moi le complément pour que je sois sûr.
Non, en fait, elle dit car ce sont deux choses interdites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé un l'un et a interdit à l'autre. Voilà pourquoi elle demande la différence. Tfadda cheikh.
Naam. On commence Allah Ta'ala par la première personne. Et d'abord, je lui dis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui, comme tu m'as aimé en lui, et te guérir de tes maladies et guérir tout musulman et musulmane. Naam. Donc, quant à la salat avec le hijab à l'envers, ça n'a rien à voir avec la validité ou bien l'annulation de la salat. Ce qui annule la salat, c'est que, par exemple, il y a une partie de la aura qui est découverte, tout en le sachant. Ou bien on fait la salat avec un hijab contenant de la souillure, tout en le sachant. Mais s'il a été mis à l'envers, il n'y a aucun problème, bi'idhnillah ta'ala. D'ailleurs, pour la deuxième question, pendant le ramadan, quel est le mieux? De lire avec la traduction le Coran ou bien de le lire sans la traduction pour le terminer? Le mieux, c'est de le lire, même si c'est sans la pour le terminer. Le mieux, c'est-à-dire, c'est la récitation du Coran pendant le ramadan. C'est pour ça que beaucoup de salaf pendant le ramadan délaisser toutes les autres matières, si je puis dire, et s'intéresser seulement à la récitation du Coran. Naam. Mais quand je dis comme ça ne veut pas dire que c'est interdit. Si une personne veut voir quel est le sens de tel et tel mot, ou bien tel et tel verset, ou bien faire une recherche, ou bien lire l'interprétation, ce n'est pas interdit. Je vous ai dit seulement ce qui est mieux. Taïeb. Pour la troisième question, Naam, comment se fait-il que le prophète a.s. ait permis l'or à ce sahabi qui avait perdu son nez dans une bataille lui avait permis qu'il mette, qu'il place un nez en or et ne permet pas à la femme qu'elle mette ce qu'on appelle une perruque. Hein? Alors que Yannick, elle aussi, on va dire que Yannick, elle est dans dans le besoin, si je puis dire. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, le nez en or, hein, c'est d'abord quand quelqu'un met un nez en or, il le met, ce n'est pas pour se vanter, par exemple, qu'il a de l'or, non, mais il le met car l'or a cette particularité de ne pas, par exemple, pourrir. Ce n'est pas comme si on va mettre un autre nez, par exemple, en plastique ou je ne sais pas en quoi, qui risque de pourrir, non, et par contre, yani, de donner une maladie. Mais l'or, comme vous savez, non, c'est un métal, masha'Allah, qui reste toujours comme ça, propre et intact. Non. Ensuite, la différence entre yani, l'or dans le nez et la perruque sur les... Voilà la grande différence. L'or dans son nez n'a pas une tromperie, ne ruse pas. Quiconque va le voir, va voir que ce n'est pas son nez et que c'est un métal qu'il a mis à la place de son nez. Tandis que celle qui va mettre la perruque, qu'est-ce qu'elle va faire? Encore, on ne parle pas ici de la perruque. On parle de celle qui va ajouter des cheveux à ses cheveux. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trompe. Si quelqu'un va la voir dans la rue, va croire que ce sont ses cheveux qui sont longs ainsi. Et si quelqu'un dérange, voilà. Et si quelqu'un va lui demander sa main, il va croire que elle a de longs cheveux. Alors qu'en fait, que ses cheveux sont courts ou alors que ses cheveux sont peut-être même malades. Non. Donc voilà la grande différence entre les deux. Le premier se soigne et la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruse. Elle ruse et elle veut tromper. C'est pour ça que certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, a dit, mais si quelqu'un, homme ou femme, n'a pas de cheveux du tout, il est chauve, et c'est devenu donc, quoi? C'est devenu, yani, disons, un défaut par rapport aux autres gens, ils se sont même complexés. Il a dit, si celui-là, là, va mettre une perruque sur sa tête, il a dit, j'espère. C'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui dit ça. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas haram pour lui. Le mieux, c'est de ne pas le faire, mais s'il le fait, c'est pas haram. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait des rajouts. Il n'avait pas des cheveux courts et il leur a rajouté d'autres pour tromper les gens. Mais par conséquent, celui-là, Yannick, il est chauve et il a mis quelque chose pour cacher. Ce n'est pas pour tromper les gens, mais pour cacher ce défaut. Non. Si on fait de la chimiothérapie, cher, ça rentre dans cet avis ou pas? J'ai pas compris. On fait la chimio, pourquoi qu'on l'a fait? On l'a fait si quelqu'un, par exemple, est malade de cancer, etc. Non. Est-ce que ça rentre dans cet avis? Comment ça rentre? J'ai pas compris. Tu veux dire, est-ce que ça rentre dans le haram, n'est-ce pas? Est-ce que ça rentre dans le haram? C'est ça la question? Dis-moi si c'est oui. Non, ça fait tomber les cheveux. Ça fait... Non, on perd des cheveux. Mais, non, et voilà. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait perdre ses cheveux? Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous connaissez quelqu'un, qui ça lui plairait qu'il devienne, par exemple, chauve? Il n'y a pas quelqu'un qui ça lui plaît cela. Donc c'est quelque chose qu'on fait, yani, dans la contrainte. Dans la contrainte. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait que ses cheveux tombent. Mais puisque la chimio les fait tomber et il n'a pas d'autre solution, c'est pour cela que, yani, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi ta'ala, même si certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui est mort, rahimahullah, atteint de cancer, et quand on lui a proposé la chimio, il a dit non, car je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ma barbe. Comme ça, il a dit. Il a dit, je fais pas la chimio. Je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ma barbe. Donc vous voyez, il n'a pas parlé des cheveux de sa tête. Ce n'est pas grave. Mais il a dit pour la barbe, non. Je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ma barbe. Et subhanallah, l'adhim Allah subhanahu wa ta'ala, lui a exaucé son vœu et il est mort avec sa barbe. Naam. Pour la quatrième question, est-ce qu'on lève les mains pour faire les doigts, debout ou bien assis? Cela dépend de la position dans laquelle on est. Si on est assis, ensuite, on a eu dans le cœur qu'on voudrait faire les doigts. C'est pas la peine de se lever. On reste assis, on lève les mains, on fait les doigts. Si on est debout et on veut faire des doigts, c'est pas la peine aussi de s'asseoir. On reste debout et on fait les doigts en levant les mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait même des doigts sur la chamelle. Il était sur une chamelle et d'une main, il tenait la bride ou bien les brides de la chamelle et avec l'autre main, il l'a levée vers le ciel et faisait des doigts. C'est-à-dire que même dans une voiture ou là, on peut lever les mains et faire des doigts. Enfin, pour la cotisation de la mosquée, je donne seulement mon avis, c'est pas l'avis des ulama ou là, c'est seulement mon avis. Moi, quand je suis dans une mosquée, là, je cotise et que je sais que cette cotisation va aller à lui-même, c'est pour lui, là, ça paye aussi, ça rentre dans sa paye, et que cet imam, yani, fait la guerre à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, la da'wa des salaf salih, celui-là, là, je ne l'aide pas, bi'idhnillahi ta'ala. Là, je préfère aider quelqu'un qui est dans le minhaj. Je n'aide pas quelqu'un qui est quoi? Je le paye pour qu'il vienne insulter les savants et les dénigrer et mentir sur eux et exhorter les gens parce qu'il les critique. Là, celui-là, je ne l'aide pas, bi'idhnillahi ta'ala. Je peux toutefois, là, si c'est obligé, je dis voilà, je vous donne telle somme à condition que ça soit juste pour l'électricité et je ne sais pas quoi. C'est pas pour lui-même. Non, sinon, il y a plein de mosquées qu'on peut aider, fisabilillah. Plein de mosquées qu'on peut aider, fisabilillah. Je ne suis pas obligé d'aider cette mosquée spécialement. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal.
Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. Je passe à la première question, cher. La question d'un frère qui dit Barakallahu fikoum, cher. J'aimerais juste que vous fassiez nasiha aux frères et aux sœurs concernant le divorce, car vraiment il y en a trop et il y en a même de plus en plus en France. Barakallahu fikoum, cher. La deuxième question, c'est une sœur qui vous dit. Jazakumullahu khairan ainsi que les admins. Est-il permis à la femme de porter des sandales ouvertes à l'arrière mais recouvertes à l'avant, en mettant des bas noirs de sorte qu'on ne voit pas les pieds? Donc les sandales sont ouvertes à l'arrière mais en mettant les bas, on ne voit rien, cher. Et donc est-ce que c'est permis? Barakallahu fikoum. La troisième question, c'est toujours une sœur qui dit Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ma question porte sur le comportement lors de la prière du vendredi, notamment pour la femme, chère. Doit-on lever les mains lorsque l'imam, à la fin de la khutbah, fait des doigts? Et doit-on, pendant la prière, réciter une sourate après la fatiha, alors que l'imam récite à voix haute une sourate? C'est-à-dire, dès que l'imam finit la fatiha et qu'il récite une autre sourate, est-ce que la personne qui est derrière récite aussi une sourate ou bien doit se taire? Dès qu'elle dit Amin, elle se tait. La quatrième question, chère, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je dois me rendre bientôt en vacances au bled. Quelle prière dois-je raccourcir si je pars le matin? Et une fois arrivé à destination, pendant combien de jours je peux raccourcir les prières? Et enfin, la dernière question d'une sœur chère qui vous dit, si une personne meurt avant une autre personne, est-ce que la première personne morte aura beaucoup plus de temps à attendre, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, avant la deuxième personne? Enfin, que je répète parce que c'est un peu difficile. Si une personne meurt avant une autre personne, est-ce que la première personne morte aura beaucoup plus de temps à attendre le jour du jugement que la deuxième personne? Est-ce que c'est clair, cher?
Je commence par la cinquième que je n'ai pas notée. Donc, si je comprends bien, la question dit, est-ce qu'une personne qui est morte avant l'autre, ça veut dire que, Yawm al-Qiyamah, Elle parle d'Yom Kiyama. Yani elle va attendre plus que l'autre. Plus que l'autre pour que vienne le moment de son jugement. Est-ce que c'est ça la question? Non. La réponse, inshallah ta'ala, je ne connais rien. Non. Aucun dalil, ni un savant, avoir dit que il y avait une différence entre celui qui mourait avant l'autre le jour de Yom al-Qiyamah. Tout ce que je sais, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Nahnu al-akhiruna al-awwaluna Yom al-Qiyamah. Comme ça, il a dit. Il a dit nous les derniers, on sera les premiers Yom al-Qiyamah. Les premiers à être jugés pour entrer au paradis. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette umma. Nous les derniers, nous sommes les derniers. Il n'y a pas une derrière une autre umma après nous. Ça, nous les derniers, nous serons les premiers bidna ta'ala à être jugés avant toutes les autres, yani communauté bidna ta'ala. Mais pour dire que celui qui meurt avant, yani passera avant ou après celui qui est mort après lui, non, il n'y a rien d'après ce que je sache bidna ta'ala. Quant à la première question pour la nasiha, pour le divorce, naam, wallahi, franchement, yani, tout ce que je peux faire, je l'ai fait bi'idhnillahi ta'ala. Je n'ai pas arrêté, je ne me suis pas arrêté dans mes doros, yani, de marteler et de parler à chaque fois que j'ai l'occasion sur yani, la gravité des problèmes conjugaux qui se passent en France. Et je vous ai dit, je redis que si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est désolant de le dire, mais je vous le dis. Vraiment, les gens ont un très, très, très mauvais aperçu sur les frères et les sœurs de France. Très, très mauvais. Alors que, il y a des frères qui sont mashallah et des sœurs qui sont mashallah. Mais les autres qui ne sont pas sérieux et qui ne sont pas sérieuses, ont donné vraiment, yani, au monde musulman et même aux savants, non, ils leur ont donné une très très mauvaise image des frères et des sœurs de France, surtout dans cette chose-là de divorcer le mariage. Non, le divorce, c'est très connu qu'en France, une personne peut divorcer la même nuit de noces. La nuit de noces où elle est rentrée, elle peut divorcer. Alors qu'une chose pareille, par exemple, en Algérie, c'est arrivé peut-être trois fois en 100 ans. Pendant 100 ans, trois personnes ont divorcé la première nuit. Alors qu'en France, yani, ça peut arriver comme si quelqu'un, yani, je ne sais pas quoi, manger un bonbon ou là, c'est quelque chose de très normal. Sans parler des gens qui divorcent le lendemain, les gens qui divorcent la première semaine, les gens qui divorcent le premier mois, et sans parler, yani, tu demandes à la personne, tu lui dis, tu demandes à la sœur, tu lui dis, tu as à combien de mariages? Elle te dit, je suis au sixième. Quel âge? Sixième mariage. Quel âge tu as? Tu dis, j'ai 24 ou 25 ans. 24 ans, cinquième, sixième mariage. Donc, à 40 ans, tu seras au 30e, 35e mariage. Subhanallah l'adim, c'est pas possible. Allah al-Musta'an, naam, Allah al-Musta'an, je sais, je dis, je redis. Il y a des frères et des sœurs en France qui sont, mashallah, qui devraient être un exemple et un modèle pour tous les autres. Mais les autres, yani, ont donné un très mauvais aperçu. Ce que j'ai appelé, vous avez entendu tout à l'heure, j'ai décidé maintenant, je les appelle les goûteurs. Les goûteurs et les goûteuses. Ils veulent juste goûter la chose, ensuite dire, je ne peux pas gérer. Et même parmi les sœurs, il y en a ça. Juste elles goûtent la chose, ensuite elles disent, celui-là, il ne me convient pas. Celui-là, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas je ne sais pas quoi. Et elle commence à lui trouver des défauts pour demander le khola. C'est comme si c'était un jeu, ou l'ayadou billah. Al-Muhim. Donc, ma nasiha, c'est quoi? C'est Ta'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Toute femme qui demande le divorce sans raison, elle ne sentira pas le paradis. Il en est la même chose pour l'homme qui dit veut divorcer sans raison, aucune raison. Il n'a fait ni mal, ni rien, ni il veut la jeter comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala et où il vous posera la question et ce sera vraiment difficile de répondre. Non, ce sera vraiment difficile pour la personne qui a joué avec la chose la plus sacrée. Pourquoi? Parce que en faisant cette chose, yani intime, tu l'as faite, bismillah, c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu es arrivé à faire la chose la plus intime avec le conjoint, que ce soit l'homme ou la femme. La chose la plus interdite, Allah ta'ala te l'a permise en son nom, parce que tu as dit bismillah et c'est à cause de l'islam. Ensuite, toi, tu as pris ça pour un jeu. C'est comme si yani, tu as acheté des choses et tu les vendais. Subhanallah. Allah musta'an. Est-ce que tu peux répéter, Barakallahu fik, la question de la sondage? La question des sondages, je n'ai pas bien compris. Tfadl, Barakallahu fik.
Barakallahu fikoum, cheikh. La personne demande si c'est possible de porter des sandales pour une femme. Des sandales qui sont ouvertes à l'arrière, mais qui sont fermées à l'avant. C'est-à-dire déjà à la base, on ne voit pas les orteils à l'avant. Et en plus de ça, elle met des chaussettes noires. Des chaussettes noires, pardon. De sorte qu'on ne voit pas les pieds. Mais elle veut savoir si c'est possible quand même de porter, malgré qu'elle soit ouverte à l'arrière, même si on ne voit rien. Je ne sais pas si c'est plus clair, cher. Donc là, on fait comme.
Bon, même si j'ai pas bien saisi, ni conçu la question yani, dans ma tête, mais je dis en général, elle m'aurait mais l'essentiel, c'est que on ne voit pas ses pieds. Quand je dis on voit pas, c'est-à-dire que ses pieds sont recouverts par des chaussettes noires. On ne sait pas maintenant si ses pieds yani, ils sont blancs ou là s'ils sont noirs ou là elle a couvert ses pieds avec yani des bas noirs, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour la prière du vendredi, si l'imam commence à faire des doigts et il lève la main, il n'a pas le droit de lever la main sur le minbar pour faire des doigts le vendredi. Naam. Et vous connaissez le hadith du sahabi qui a vu quelqu'un lever le doigt et qui a levé les mains et qui lui a interdit ça. Et lui a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça, mais levait seulement le doigt sur le minbar. Ensuite, les gens qui sont en train d'écouter les doigts, eux aussi, et yani, par primauté, n'ont pas le droit de lever les mains. C'est pour ça que je vous ai cité une fois, attendez, comment il s'appelle? L'Abidine. Là, attendez, dans son livre, cette personne, à chaque fois que je veux son nom, je ne le trouve pas. Mais à chaque fois que je termine le das, je le trouve. Et je dis la prochaine fois, je vais le dire. Attendez. Bon. Quelqu'un de très connu parmi les grands savants de Madhab al-Hanafi, Naam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Naam, il a dit, si les gens, le vendredi, c'est-à-dire les prieurs, lèvent la main avec l'imam qui a levé la main, il a dit, ils auront des péchés. Comme Etimoun, Etimoun, ils auront des péchés. Maintenant, je me rappelle son nom, il s'appelle Ibn Abidin. Ibn Abidin, dans son livre Al-Hashiya, il a dit, s'ils lèvent la main avec l'imam, ils auront des péchés pour cette bid'a. Là, quant à, est-ce qu'on dit sourate al-Fatiha, est-ce qu'on dit une sourate? Après que l'imam, yani il a terminé le Fatiha, il lit une autre sourate. On n'a pas le droit de lire une autre sourate. Sinon, pourquoi l'imam alors est-il en train de lire à voix haute? Il est en train de lire pour qui? C'est pour nous, pour qu'on l'entende. Il a lu le Fatiha, maintenant il lit quoi? Il lit par exemple Sabbih et Rachiya. Ou bien il lit Sourate al-Jumu'ah et le Munafiqun. Il est en train de lire pour qu'on l'entende. Maintenant, si quelqu'un lit avec lui, il a fait un péché. Voilà. Et enfin, pour la personne qui dit qu'elle va, Inch'Allah ta'ala, au bled, qu'est-ce qu'elle doit raccourcir ou elle ne raccourcit pas? Bien sûr qu'elle raccourcit la salat, elle raccourcit par exemple salat al-dhar, elle fait deux. Salat al-asr, elle fait deux. L'Aïcha, elle fait deux. Quand elle arrive là-bas au bled, les 3 premiers jours, lorsqu'elle est là-bas les 3 premiers jours, il y a unanimité qu'elle peut croire qu'elle peut raccourcir ses salats, les 3 et 4 premiers jours. Après, il y a divergence. Mais l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que elle peut raccourcir ses prières là-bas, même si elle reste un mois ou plus, jusqu'à ce que elle revienne chez elle, dans son pays natal, et sa demeure. Maintenant, si c'est un homme, je parle d'une femme, si c'est un homme et que cet homme a voyagé au bled, il n'a pas le droit de rester dans la maison, faire des prières et dire je suis voyageur, je raccourcis. On lui dit, Naam, tu raccourcis, tu es voyageur, à condition qu'il n'y a pas une mosquée près de toi. Mais s'il y a une mosquée et que tu peux entendre l'adhan, tu es obligé d'aller à la mosquée et tu n'es plus voyageur, Naam, tant qu'il y a une mosquée devant toi. Sinon, si la mosquée est loin, Naam, tu peux faire la prière à la maison en raccourcissant jusqu'à ce que tu reviennes chez toi, Inch'Allah Ta'ala. Et si tu prends de l'avis de la plupart des savants qui disent seulement les 4 premiers jours, c'est aussi bien. Naam, les deux sont bien, bi'idhnillah Ta'ala. Tfadlal.
Donc on poursuit les questions. La question d'un frère, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh ya Cheikh. Je voudrais savoir s'il est meilleur de jeûner à la façon de Daoud, un jour sur deux, ou bien de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeudi et le lundi et le jeudi à foule. Et aussi je voudrais savoir pourquoi le prophète ne faisait pas le jeûne de Daoud. Deuxième question. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, il dit, Barakallahu fikoum Cheikh, de nous consacrer ce temps béni. Est-ce que si j'écoute la récitation du Coran par un Cheikh, yani par un média sur l'ordinateur, je dois faire la prosternation au moment où il y a une prosternation dans le Coran? Dois-je le faire ou pas? Troisième question, Cheikh. Elle est assez longue, je vais lire assez rapidement. C'est une sœur qui dit, je me suis marié avec un frère parce qu'il était réputé pour sa piété. Mais après 2 ans de mariage, ce frère est retombé dans son ancienne passion d'adolescent, c'est-à-dire la musique. Donc il pratique toujours ses obligations religieuses, alhamdoulilah, mais non seulement il écoute de la musique, mais il fait et produit des albums de rap. Il organise des concerts avec son groupe dans lequel parfois il y a des femmes qui chantent. Il minimise ses actes en disant qu'il fait des chansons avec des textes qui évoquent la religion et que malheureusement il n'arrive pas à se passer d'écouter de la musique. Au point où il s'énerve dès que son épouse lui fait naseha. Ils ont une fillette de 10 mois qui se met à danser lorsqu'elle entend de la musique. Donc pour abréger un petit peu, donc son épouse ne sait, l'épouse qui a posé la question ne sait plus quoi faire, cher. Pouvez-vous la conseiller? Barakallahu. Donc quatrième question, cher. Salam alaykoum. Qu'Allah vous récompense et vous protège ainsi que votre famille. Amin. J'aimerais savoir ce que l'on doit faire lorsqu'on arrive en retard à une salat de 4 raka'a et que le groupe arrive en ruku' à la deuxième raka'a. Doit-on la rattraper et faire les 3 raka'at manquantes ou doit-on rattraper la salat entière? Et si l'on rattrape les deux, afoun, et si l'on rattrape que les 3 raka'at, explique-nous comment devons-nous les rattraper? Barakallahu fikoum. Et la dernière question sur Salamu alaykoum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve ainsi que à tous les frères et sœurs connectés. Un proche parent de ma famille est mort. Il est mort mécréant. Puis-je faire quelque chose pour lui? Yani pour l'au-delà. Barakallahu fikoum, cher. Tfaddal ya cher.
On va, vous m'entendez? On va commencer par la dernière question. Comme ça, à chaque fois, alhamdoulilah, ça me facilite. Je n'écris pas la dernière question, je l'entends et je réponds directement. Quand quelqu'un est mort et qu'il est mort dans la mécréance, on n'a plus rien à faire pour lui. Toutes les portes sont fermées. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes les occasions et les chances. Peut-être qu'il a vécu 60 ans, 70, 80, je ne sais pas combien, n'am, et il n'a pas voulu rentrer sur le droit chemin. Et maintenant qu'il est mort, c'est trop tard pour lui. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète que ce n'est pas la peine de faire des doua pour son oncle qui était mort, car Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit qu'il est mort dans la mécréance. Mieux encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la tombe de sa mère. La tombe de sa mère. Et il a voulu faire des doigts là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que il ne pouvait accepter, il n'acceptait pas des doigts pour une personne qui est morte et est dans la mécréance. Mais ce qui était permis seulement, c'est d'aller visiter sa tombe. On peut aller visiter la tombe d'un mécréant, mais pas lui faire des doigts. Pas lui faire des doigts. Si quelqu'un va dire, quand je vais visiter la tombe d'un mécréant, je gagne quoi? D'abord, le hadith a dit, annonce-lui le feu. Premièrement. Deuxièmement, moi, quand je vais chez la tombe d'un mécréant, je ne vais pas chez n'importe quel mécréant. Mais je vais, par exemple, si ma mère est morte mécréante, ou là, mon père, l'âme, j'ai toujours cette chose, dans le cœur, de l'amour pas religieux, l'amour naturel qu'il y a dans mon cœur. L'âme. Sinon, aller vers chez la tombe d'un mécréant, c'est aussi pour nous, pour se dire, regarde, subhanallah, celui-là, il est mort dans la mécréance. Et moi, alhamdoulilah, je suis non seulement vivant, mais encore je suis musulman. Chauffe la différence entre lui et moi en ce qui concerne la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde. Celui-là, il est mort mécréant. Si au moins il était vivant, peut-être qu'il aura des occasions, peut-être qu'il rentre en islam. Mais là, c'est terminé, il est mort. Et moi, alhamdoulilah, Allah ta'ala m'a donné deux choses. Je suis vivant, alhamdoulilah, et je suis musulman. Alhamdoulilah. Qui est mieux que moi? Naam. Tayyib. Ensuite, on commence par la première question. Le meilleur jeûne, comme a dit le prophète, c'est le jeûne de Daoud. Daoud. Notre prophète Daoud, qui jeûnait un jour et mangeait un jour. Pourquoi le prophète a dit que le meilleur jeûne, c'était le jeûne de Daoud et il ne l'a pas fait. Il jeûnait seulement 3 jours par mois. 13, 14, 15, ou bien les trois du début, du milieu ou de la fin. Et jeudi, lundi, là, je pense, Wallahu ta'ala alam, le prophète ne l'a pas fait parce que s'il allait le faire, ou s'il l'aurait fait, tous les compagnons l'auraient suivi. Et alors, vous savez à quel point ils aimaient le prophète, à quel point ils le prenaient comme modèle et à quel point ils le suivaient. C'est pour ça que, donc, lui, il ne l'a pas fait. Il sait que c'est difficile. Il sait qu'en islam, quand on commence une chose, on ne l'arrête pas. Ce n'est pas, je vais commencer à jeûner le jeûne de Daoud, je le fais un mois, ensuite j'abandonne. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas comme ça. Je vous ai toujours dit, quand on commence une chose, on la garde jusqu'au jour où on va mourir. Or, jeûner un jour, manger un jour, n'est pas une chose facile. Il y a même un compagnon qui l'a fait, et a regretté à la fin de sa vie. Là, il a dit vraiment, c'est difficile. Ah, si j'avais su, j'avais pris de la permission qui me permettait de manger. Donc je pense que c'est pour cela que le prophète Aslam ne l'a pas fait. Wallahu subhanahu wa ta'ala, alors que, bien sûr, s'il l'avait fait, il l'aurait pu. Car Allah ta'ala, l'aurait aidé. Mais c'est juste, pour nous. Car il compatit avec nous, sallallahu alayhi wa sallam. Pour la prosternation du Coran. Naam, quand on écoute le Coran, est-ce qu'on fait la prosternation ou pas? Je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, que quelqu'un m'a dit, si je n'ai pas oublié, qu'on a posé cette question à Cheikh Ibn Othaymine, je crois, ou un savant. Et il a répondu que si le poste, par exemple, on écoute ça, disons, sur une radio cassette. Il a dit, si la radio cassette fait la prosternation, toi tu l'as fait. C'est un peu pour faire rire en même temps. Il a dit, si le post-cassette fait la prosternation, toi aussi, tu fais cette prosternation. Et, comme vous devez le savoir, se prosterner pendant qu'on écoute le Coran n'est pas une chose obligatoire. N'est pas une chose obligatoire. C'est tout juste sunnah. Si tu le fais, alhamdoulilah, tu ne l'as pas fait, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Mais celui qui le fait, il doit remplir une condition, laquelle il doit au préalable avoir écouté le verset de la prosternation. Ce n'est pas, par exemple, comme certains gens rentrent dans la mosquée. Et quand ils rentrent dans la mosquée, hein, ils voient, par exemple, l'imam, par exemple, qui était en train de lire, ou là, un groupe de gens qui était en train de lire le Coran, ou là, ils font la prosternation. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il les voit prosternés, il se prosterne avec eux. Si je lui demande, par exemple, ils se sont prosternés pour quel verset? Il dit, j'ai pas entendu. Les mohims sont prosternés, je me suis prosterné. Ça, les savants critiquent ça. Ils disent non. On se prosterne quand quoi? Quand on entend, on a médité le verset, on l'a entendu, on se prosterne. Sinon, non. Non. Et pour le mari et la musique, pour le mari et la musique, non. Cette épouse devrait, bi'idhnillahi ta'ala, essayer de lui donner des conseils. De lui donner des conseils, non, pour lui montrer, yani, qu'est-ce qu'il est en train de faire. La gravité de ce qu'il est en train de faire. Non. D'ailleurs, vous avez remarqué ce qu'elle a dit. Elle a dit que sa fille commençait à danser. Vous voyez, yani, qu'est-ce que ça donne? Déjà, sa fille, quoi, commence à danser au lieu de quoi? Au lieu, yani, de prendre son père comme modèle, quelqu'un qui lui apprendrait la religion, qui lui apprendrait le Coran, la Sunna, celle-là, déjà toute jeune. Et, bien sûr, son père ne pourra pas lui dire pourquoi tu danses, ma fille. Elle va lui dire, mais c'est toi qui m'as fait danser. C'est ta musique qui me fait danser. Comment? Tu fais de la musique et tu me dis, ne danse pas? Ça, c'est comme si j'envoie mon fils m'acheter des cigarettes et je lui dis c'est interdit de fumer. C'est pas possible. Comment? Il me dit achète-moi les cigarettes. Ensuite, il me dit la cigarette est haram. C'est pas vrai. Si c'était haram, toi, tu n'aurais pas fumé. El-Mohim. Donc, elle essaie, Inch'Allah Ta'ala, de patienter un peu et de lui donner des conseils. Ou alors, quand elle voit que ça ne marche pas du tout, elle essaie alors de faire, comme a dit le Coran, c'est-à-dire. Il y a une réunion avec sa famille à lui, pour lui dire que voilà, moi quand je suis marié avec lui, je ne me suis pas marié avec un musicien, je suis marié avec un R, hein, dans le but d'apprendre le dîn, d'avancer, et maintenant, les choses se sont renversées, et lui maintenant, il a pris un autre sentier, le sentier des passions, hein, le sentier de suivre ses tentations. Maintenant, il faut que on voit comment faire une solution. S'il revient, il décide de revenir, Inch'Allah ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et regretter ce qu'il fait, Alhamdulillah. S'il dit non, maintenant je ne peux plus revenir de ce chemin, etc., c'est ma vie, c'est ceci, c'est cela, la sœur a le droit, Inch'Allah ta'ala, de demander la séparation. A le droit de demander la séparation pour ne pas vivre avec quelqu'un qui, yani, du matin au soir, yani, se remplit de péché, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, pour la quatrième question, où on dit, yani, comment qu'on fait pour rattraper les salats, etc. Comment qu'on fait pour rattraper les salats, etc. Naam. Quand on rentre dans une mosquée, on voit, hein, on essaie de compter combien on a attrapé avec l'imam et combien on a perdu. Ensuite, quand l'imam dit salam alaikum, nous on se lève et on termine ce qu'on a raté. Et la règle dit quoi? Quand je rentre avec l'imam, naam, tout ce que j'ai fait avec lui comme salat, je compte que c'est le début de ma salat quand je suis seul. Tout ce que j'ai fait avec l'imam, je compte que c'est pour moi, après avoir dit salam alaikum, c'est pour moi, yani, le début. c'est-à-dire la fin, c'est le début. Je vais expliquer en donnant quelques exemples, bi-idhnillah et ta'ala. Supposons que je sois rentré dans Salat al-Dhuhr. Je sois rentré au Salat al-Dhuhr. Je trouve l'imam debout avec les prieurs et je rentre avec eux, je dis salam alaikum. Afoun, je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. On s'incline ensemble, on se relève, on se prosterne, on s'assoit, on se prosterne et on s'assoit. Pourquoi? Parce que c'est la quatrième raka. Ou l'afoun, disons si c'est la quatrième, enfin, disons c'est la troisième raka. Maintenant, on se lève ensemble. On se lève ensemble. Naam. Pour moi, ça va être la deuxième. Pour moi, ça va être la deuxième raka. Ça. Pour les autres, ça va être la quatrième. Ensuite, on s'incline, on s'assoit, on se procède, on s'assoit. Eux, ils vont dire salam alaikum. Et moi, je vais me relever pour faire la troisième raka et la quatrième qui me manque. La troisième et la quatrième qui me manquent, j'ai dit quoi? J'ai dit que ce que j'ai pris avec l'imam, je vais compter que c'est mon premier. Donc, pour moi, j'ai prié deux rak'at. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux rak'at. Les deux rak'at qui me restent, salat al-dhuhr. Et comment qu'on fait les deux rak'at? On les fait seulement avec fatiha. Donc, je vais dire seulement fatiha dans la troisième et fatiha dans la quatrième. Et je vais dire salam alaikum. Maintenant, si je rentre avec l'imam, par exemple, et je le trouve dans la dernière raka, je le trouve dans la dernière. Supposons Salat al-Isha. Je suis rentré avec l'imam, c'est Salat al-Isha. Ils sont debout, en train de lire à voix basse. Je rentre, je dis Allahu Akbar avec eux. On s'incline, on se relève. On se prosterne deux fois. Hein, on s'assoit, on fait le tashahhud. Eux, ils disent salam alaikum et moi je me lève pour la deuxième. Ça, maintenant je me lève, c'est pour moi la deuxième. Voyez, la deuxième, si j'étais seul, pendant Salat al-Isha, j'étais seul. Comment je lis la deuxième? Je lis avec Surah et Fatiha, à voix haute. Donc, je me lève pour la deuxième, je lis à voix haute, Surah et Fatiha. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je fais le tashahhud. Ensuite, je me relève, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux raka'a à voix basse. Je me lève et je fais troisième et quatrième à voix basse. Donc, c'est toujours comme ça. Je continue seul et ce que j'ai attrapé avec l'imam, je fais de sorte que c'est le premier. C'est le début de la salat. Et je termine la fin tout seul. Pour être sûr que vous avez compris, regardez ce que je vais dire maintenant. Quelqu'un qui va rentrer à la mosquée pendant Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib. Naam. Et il va attraper l'imam dans la dernière rak'at, debout. Ils sont en train de lire à voix basse la troisième rak'at, donc c'est la dernière. Je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. Écoutez bien, je dis Allahu Akbar, je rentre avec eux. Imam continue, termine de lire, on s'incline, on se relève, on se prosterne, la première, la deuxième, et on s'assoit. On s'assoit, on va faire le tashahhud ensemble, et eux ils disent salam alaikum, et moi je me relève. Donc j'ai fait une rak'at, avec qui? Avec l'imam. Et je me relève. La deuxième hadith, est-ce que je vais la lire à voix haute ou bien à voix basse? Non. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout ce que j'ai fait avec l'imam, ça doit être le début de ma salat. Donc moi, avec l'imam, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rak'at, je vais compter que c'est ça le début. C'est-à-dire, si j'étais seul, j'ai fait déjà une rak'at, et il me reste deux. Si j'étais seul, je fais salat al-maghrib. La deuxième, comment je la fais? Je suis obligé de la faire à voix haute. Enfin, c'est sunna. Voix haute, Surat plus Fatiha. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je fais le tashahhud. Et je me relève pour la troisième. La troisième. Quand quelqu'un fait Surat al-Maghrib, il la fait à voix basse et seulement le Fatiha. Donc, je la fais la troisième à voix basse, seulement le Fatiha, et je m'assois et je fais le tashahhud. Et je dis salam alaikum. En fait, j'ai fait combien de tashahhud? J'ai fait trois tashahhud, alors que le Maghreb ne contient que deux tashahhud. J'ai fait le premier avec l'imam. Ensuite, lui, il nous a quittés. J'ai fait le deuxième tashahhud, car j'étais dans la deuxième rak'at. Et ensuite, j'ai fait le troisième tashahhud pour sortir de la salat. C'est comme ça, inshallah ta'ala, qu'on doit faire. J'espère, inshallah ta'ala, que c'était clair, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Attendez, où est-ce que tu es, Tawaïd? Je dois te chercher, inshallah ta'ala, d'abord. Je dois te chercher d'abord. Naam. Tawaïd, je te vois pas. Est-ce que tu peux lever ta main, inshallah, barakallahu? Alhamdulillah. Tfadl pour les autres. Tfadl.
Donc nous passons aux questions suivantes. Et cher, j'aurai également besoin, Inch'Allah, à la fin de la série de questions-réponses, que vous m'ouvrez le PV. Barakallahu fikoum. Salam alaikum, cher. Je travaille actuellement dans un institut de sondage. Nous posons des questions par téléphone aux gens. Il y a une enquête qui va commencer. On doit appeler des gens pour leur poser des questions sur leur mutuelle d'assurance. Si ça leur satisfait, etc. Mais nous ne vendons rien. Est-ce licite? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Et je voudrais savoir, lorsque l'on entre à la mosquée, après avoir dit afan, l'invocation de l'entrée à la mosquée, doit-on d'abord saluer l'ensemble des musulmans présents à la mosquée ou prier Tahiyat al-Masjid avant de les saluer. Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous expliquer à une personne qui vous écoute c'est quoi le ramadan et pourquoi doit-on jeûner? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une femme peut-elle faire une muqabala avec deux hommes différents dans la même période, sachant que le premier homme a déjà demandé la main de la femme, sans réponse du père? Wa jazakumullahu khairan. Donc, dernière question, inshallah. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins pour tout ce que vous faites, masha'Allah. Quelles sont les raisons qu'une femme peut demander à son mari pour divorcer? Exemple, plus d'amour, caractère incompatible, trop colérique, afin d'être sûr de ne pas faire partie des femmes qui ne sentiront pas l'odeur du paradis, comme dans le hadith. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Voilà, inshallah ta'ala, un lien, l'âme de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, sur le fait de est-ce qu'on se prosterne quand on écoute le Coran d'une facette ou pas. Je vous avais dit que Cheikh Ibn Uthaymeen avait dit, mais je ne savais pas où, que yani, si la radio cassette se prosternait, alors on se prosterne. Non, mais je savais pas qu'il y avait une autre fatwa très claire de lui, rahimahullah, qui disait que. Yani, on ne se prosternait pas si ça venait d'une crassette. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ensuite, pour les autres questions, les cinq questions que vous avez posées, je suis très désolé, là, mais je demande aussi qu'on m'excuse, mais je ne les ai pas écoutées parce que yani, j'étais mechroul, j'étais occupé. Donc, je ne les ai pas écoutées, bi'idhnillah ta'ala. Et puisqu'Inch'Allah ta'ala, maintenant, c'est le moment d'arrêter. On va les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour la prochaine fois, Bidna Ta'ala, avec comme, comment on dit, avec comme promesse que, Inch'Allah Ta'ala, celui qui les a lus maintenant, qu'il les laisse chez lui, pour qu'on commence la prochaine fois avec ces cinq questions, Bidna Azzawajal. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadl, Fawaid.
Barakallahu fikoum, cher, si vous avez juste une petite seconde, il y a une sœur qui pose une question par rapport au début du cours. Elle dit, j'ai pas compris quand vous avez dit tout à l'heure que des savants ont dit que l'attribut s'est établi sur le trône. Donc l'attribut, Allah s'est établi sur le trône, est aussi un attribut de l'essence. Car selon vos explications, Allah, qu'Allah vous en récompense, si j'ai bien compris, alors son trône ne le quitte pas. Mais il ne quitte pas son trône quand il descend au dernier tiers de la nuit. Barakallahu fikoum, cher.
لو سمحت الفوائد جي با كومبري لا كيسيون جزاك الله خيرا سي بوفي ريكوموندي.
En fait, la sœur a dit par rapport à tout à l'heure, vous avez dit que quand on dit qu'Allah s'est établi sur le trône, donc c'est aussi un attribut de l'essence. Parce que dans vos explications, son trône ne le quitte pas. Le trône ne quitte pas Allah, mais quand Allah descend au dernier tiers de la nuit, est-ce qu'il ne quitte pas son trône? C'est ça sa question, cher. Je ne sais pas si vous avez compris cette fois.
Chauffe. Pour la question 2, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala quitte son trône lorsqu'il descend ou il ne quitte pas? Avant cela, je veux dire que l'élévation sur le trône istiwa, c'est un attribut de l'acte. Car il n'existait pas, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Mais après l'avoir fait, certains ont dit, comme Cheikh Salah Hafidahullah, Al-Cheikh, que c'est devenu quoi? Un attribut de l'essence. Maintenant, quant à est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend, il quitte le trône ou pas, il y a trois avis. Le premier avis qui dit que Allah ta'ala quitte le trône, c'est l'avis de Ibn Mindah, rahimahullah. Et le deuxième avis, l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qui a répliqué à Ibn Mindah et a écrit un épître spécialement contre lui pour lui montrer qu'il s'était trompé et que Allah ne quittait pas le trône. C'est l'avis de Ibn Taymiyyah, al-Rahmatullah. Et le troisième avis, l'avis de ceux qui disent, on dit Allahu A'lam, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, les salafs n'ont pas parlé de ça, donc, au lieu de dire, lorsqu'il descend, il quitte le trône ou il ne quitte pas, ils disent, on dit Allahu A'lam, c'est mieux. On dit Allahu A'lam, c'est mieux. Donc voilà, inshallah ta'ala, les trois avis en ce qui concerne le fait de quitter le trône ou de ne pas le quitter. Et, inshallah ta'ala, on y reviendra dans les prochains cours, bi'idhnillah ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous demande à ce que ce soit vous qui fermiez le salon, inshallah ta'ala. Salamu alaykum.